Bien, je propose de donner la parole maintenant sur le dernier zoom. Merci beaucoup, mesdames. Au docteur Meyer.
Bonjour à tous.
Au docteur Meyer sur l'aspect ambulatoire.
Après avoir passé donc une journée en intra-hospitalier, notre programme de soins nous amène à aller à passer en extra-hospitalier. Je remercie Daniel Carole et l'ADES de m'avoir invité aujourd'hui parmi vous pour vous parler de ça. Je pense qu'il m'a invité à deux titres. Bon, d'abord parce qu'en tant qu'Alsacien, on est amené beaucoup à travailler ensemble sur le territoire barinois et de plus en plus avec des visions territoriales. Également parce que l'établissement dans lequel je travaille, le centre hospitalier d'Erstein, qui est un petit établissement au sud de Strasbourg, est en pleine refonte organisationnelle et architecturale pour l'intra-hospitalier, mais également pour l'extra-hospitalier. Donc j'ai ouvert maintenant, il y a quelques semaines, un tout nouveau centre de jour sur les quartiers sud de Strasbourg, le Neuhof, pour ceux qui connaissent. J'ai encore passé dans le journal il y a une quinzaine de jours pour une rafle de scooters médiatisée. C'est un quartier relativement difficile, relativement chaud, avec 70% de minima sociaux, un secteur de 110 000 habitants. Et nous avons donc eu un projet qui finalement a pu aboutir de regroupement de deux hôpitaux de jour et d'un centre médico-psychologique dans ce qu'on a appelé un centre de jour, mais je vais y revenir. Et puis également, il m'a demandé si j'acceptais d'être mentionné comme étant correspondant à la Mission nationale d'appui en santé mentale. Bon. J'ai eu pas honte à l'être, d'autant plus que la mission est actuellement également en pleine réflexion. Et je pense que toute organisation non secrète qui développe une pensée spécifique pour la psychiatrie, spécifique sans être une pensée d'isolement, est une bonne chose. Donc pourvu que ça dure, même si c'est un peu menacé actuellement. Voilà. Ceci étant dit... L'autre bouton. Voilà. Je ne vous rappelle pas ce que c'est que l'actuel dispositif en extra-hospitalier. Bien que quelquefois, il faudrait le faire, mais on va passer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, ça, c'est tel qu'il est pensé actuellement, mais nous verrons qu'une partie de mon propos visera à exposer les enjeux actuels de l'extra-hospitalier. Et ceci, donc, tel que c'est présenté là, pourrait évoluer. La démarche de projet en extra-hospitalier n'est pas si différente que de celle de l'intra-hospitalier, mais j'ai quand même essayé dans cet exposé de les distinguer, parce que nous en avons mené deux en parallèle, donc c'était l'occasion aussi de les comparer. D'abord, il s'agit de définir la destination fonctionnelle du projet. Il s'agit bien d'une destination, puisque c'est vers quel fonctionnement nous souhaitons aller. Est-ce que c'est simplement la reproduction des fonctionnements précédents? Est-ce que c'est l'agglomération de l'ensemble des fonctionnements, de l'ensemble des structures que nous regroupons lorsque nous les regroupons? Ou est-ce que c'est vraiment une vision nouvelle, une vision médicale nouvelle, comme dirait mon ami Francis Mangeon-Jean? Quel est le public accueilli et quels sont ses besoins? Est-ce qu'il y a une spécificité d'un projet hospitalier sans lit, puisque c'est ça, hein, en fait, un projet extra-hospitalier? Et quels sont les enjeux actuellement liés à l'évolution de la politique de santé mentale en extra-hospitalier? La destination fonctionnelle d'un projet, il s'agit d'abord de définir la structure ou les structures. Alors ça paraît complètement évident. Ben, c'est pas si évident que ça. Si on fait un petit sondage, si je vous demande ça fait quoi un hôpital de jour? On pourra avoir des réponses diverses, on pourra ne pas avoir de réponse, comme ça nous est arrivé à nous. C'est quoi la différence entre un CATTP et un hôpital de jour? Enfin bon, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'elles resteront longtemps ouvertes. Ceci dit, si on parle d'enjeu, il y a là un vrai enjeu, puisque de plus en plus, nos activités thérapeutiques, sanitaires, de soins en hôpital de jour tendent à être comparées à d'autres activités peut-être plus occupationnel, je pense notamment au GEM, que certains seraient tentés de dialectiser, voire même de mettre en concurrence. Je pense que vous venez de régions où il y a aussi pas mal de GEM, en tout cas nous, en Alsace, il y en a quand même quelques-uns, et il nous est quelquefois demandé par les tutelles de nous différencier de l'accueil en hôpital de jour par rapport à l'accueil dans les groupes d'entraide mutuelle. Donc ça, c'est une question quand même très importante, de la même façon que l'organisation actuelle du dispositif extra-hospitalier en santé mentale s'inscrit dans une démarche bien souvent d'accompagnement au long cours, ce qui est une bonne chose, enfin à mon avis, mais de plus en plus, vous connaissez le discours qui vise à se focaliser sur des séquences de soins, des programmes de soins, des périodes de soins, des prises en charge les plus courtes possibles. Donc la définition de la structure ou des structures est une chose importante. On verra tout à l'heure, parce que c'est une chose très importante, c'est l'appellation de la structure. Évidemment, il s'agit de s'interroger quant au contenu soignant de la structure. Le périmètre de recrutement des patients est quelque chose à étudier également. Est-ce que c'est l'ensemble du secteur? Est-ce que c'est une partie du secteur avec éventuellement des antennes ou d'autres dispositifs? Est-ce que ça va au-delà du secteur? Nous nous sommes rendus compte lors de la dernière conférence sanitaire du territoire strasbourgeois, donc il y a une quinzaine de jours, et qu'a surgi tout à coup l'idée que, puisque Erstein avait construit un tout nouveau et très joli hôpital, enfin centre de jour, dans les quartiers sud de Strasbourg, il pourrait se destiner finalement à toute la population du sud de Strasbourg, c'est-à-dire largement au-delà de notre secteur. C'est des choses qui peuvent se dire comme ça, qu'il faut des fois avoir en tête quand même. Donc le périmètre de recrutement est important et quelquefois peut nous surprendre. Quels sont les besoins spécifiques des patients ? En extra-hospitalier, ce sont des patients autonomes qui fonctionnent dans un système d'interaction complexe, qu'on n'a pas l'illusion de maîtriser comme on pourrait avoir cette illusion en intra-hospitalier. Ils rentrent, ils sortent, c'est un public spécifique. Évidemment, ce ne sera pas la même chose si on s'adresse à des enfants, à des adultes, des personnes âgées, des ados. Et on tend actuellement à une typologie par pathologie. Ce n'est pas encore le cas sur Strasbourg, mais ça risque de venir. En tout cas, c'est une demande du SROSS, avec cette fameuse notion de la gradation de l'offre de soins. Alors, si vous voulez réfléchir, si vous cherchez des normes, des guides, des références pour penser un projet en extra-hospitalier, pardon, en psychiatrie, vous n'en avez quasiment pas, vous n'en avez déjà pas beaucoup en intra-hospitalier, mais il y a quand même beaucoup de choses écrites sur l'architecture et la psychiatrie concernant l'intra-hospitalier, on en a vu beaucoup tout à l'heure. Mais alors, en extra-hospitalier, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vous ai fait après un petit catalogue, parce que j'ai quand même un peu travaillé la question avant de venir. On ne trouve pas grand-chose. Alors, si on s'intéresse à ce que comment pourrait nous aider la chaise, eux, ils s'intéressent beaucoup aux questions de confidentialité et aux questions d'archivage. Le programme régional d'investissement en santé mentale, les programmes régionaux d'investissement en santé mentale donnaient quelques indications aussi sur les projets qu'ils allaient soutenir en extra-hospitalier, mais on retrouvait là les notions de proximité, de maillage du territoire, également de regroupement de structures et mutualisation de moyens, vous le savez mieux que moi. L'AMNASM a édité en 2006 un petit guide qui est pas trop mal fait et qui peut notamment servir lorsqu'il s'agit pour nos collègues de psychiatrie en hôpital général d'argumenter auprès des directeurs d'établissement pour leur dire voilà quelle est la demande minimale qu'on peut vous faire par rapport aux recommandations un type d'espace, de bureau par rapport à la population, etc. Et quelque chose qui aurait pu nous organiser ou nous désorganiser beaucoup, c'est la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui aurait pu là aussi bouleverser un certain nombre de structures extra-hospitalières, puisqu'elles auraient exigé des investissements considérables et nous auraient donné l'occasion ou nous auraient imposé une réflexion peut-être sur la refonte de l'ensemble du dispositif, tellement le coût a été exorbitant pour réaménager les choses dans l'existant. Et donc cette proposition a été repoussée, vous le savez, et heureusement pour des raisons financières. Si vous regardez ce qui peut être écrit sur l'extra-hospitalier et l'architecture en psychiatrie, vous avez des témoignages d'expériences locales, mais vraiment peu de communication. Parmi les documents auxquels on peut faire référence ces 10 dernières années sur quand on étudie l'architecture et la psychiatrie, si on veut lire un peu, vous avez ces quatre documents notamment, et celui surtout dont vous avez sans doute déjà parlé, Architecture et psychiatrie, Jean-Charles Pascal, Viviane Coves, qui est un pavé de à peu près 200 pages, vraiment très intéressant, très bien documenté. Et là-dessus, vous avez quelques pages sur des structures de jour. Hein. Il est quasiment exclusivement il concerne quasiment exclusivement l'intra-hospitalier. Et donc vous avez l'hôpital de jour de la MGEN à Grenoble, et puis le centre de jour de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Hein. Ce sont les deux exemples qui sont cités dans le bouquin, alors que le bouquin est quand même énorme et très bien documenté. Si vous allez sur Internet, là aussi, si vous regardez un peu ces dernières années, deux exemples que vous pourrez trouver, c'est le CMP de Meaux en 2005, très belle réalisation, avec cette notion de, il s'agit de renforcer l'effet d'enveloppe percée. Hein, j'ai extrait le texte. Hein, une structure extra-hospitalière devant être une sorte de transition, devant être un lieu où on est suffisamment protégé parce qu'on est dedans, mais en même temps suffisamment ouvert puisqu'on est intégré dans la cité. Hein, donc c'est une dialectique assez intéressante qui a été proposée dans ce projet. Vous le retrouvez sur Internet. Donc vous voyez cette façade avec des ouvertures comme ça décalées et ce double couloir à l'intérieur avec des rappels de fenêtres dans le couloir. Le CMP Constanzo à Nice, que certains connaissent peut-être. Là, vous avez un autre modèle. C'est un bâtiment. Hein, vous voyez, et ce qui peut surprendre quand on le regarde comme ça ou pas, c'est l'espèce de neutralité de ce bâtiment. Va savoir ce qui se fait là-dedans. Alors, il se fait sans doute des choses très chouettes, avec une organisation et des espaces différenciés par étage. Alors, on a beaucoup parlé du projet médical, du projet de soins. Je voudrais mettre un petit bémol là-dessus. La question que je me pose, que je me suis posée, c'est à quel moment de la démarche et avec quel niveau de précision. Si vous faites un projet médical ou un projet de soins, alors que vous n'avez pas encore de notion de ce que va être réellement le lieu et l'espace dans lequel vous allez travailler, vous risquez de construire une espèce d'idéal théorique qui risque rapidement d'être déçu. Hein. Donc moi, je OK pour qu'il y ait une vision médicale, notamment parce qu'elle peut dynamiser et rendre le projet désirable et mettre aussi les équipes en confiance, hein, parce que c'est ça qui est aussi attendu lorsqu'on touche aux fondations d'un dispositif. Mais attention peut-être de ne pas trop le préciser et de ne pas trop virer dans les approches théoriques, voire rhétoriques. À défaut d'un projet de soins préalable, on risque, par contre, si on ne pense à rien, parce que ça peut aussi arriver, on en parlait à la pause tout à l'heure, il y a des équipes qui se sont retrouvées dans des bâtiments qu'elles n'avaient absolument pas pensé. On risque de se retrouver avec un contenant sans contenu. Il y a un autre scénario qui est l'adaptation secondaire du projet de soins aux contraintes architecturales. Hein, là, vous faites comme c'est possible avec les locaux que vous avez. Mais en tout cas, ce que l'on pourrait recommander, c'est de proposer des axes de réflexion et de construction mutuelle. On l'a suffisamment dit ce matin. Dans un dialogue créatif intégrant des projections organisationnelles et donc associant les équipes, les architectes, la direction, je peux éventuellement même l'intégrer dans l'équipe de pilotage, et tout ça quand même en donnant quelques projections organisationnelles parce qu'il faut du concret, même dans le rêve. Voilà, alors en extra-hospitalier, est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, évidemment, en extra-hospitalier, on ne bénéficiera pas des mêmes points d'ancrage de la réflexion architecturale ou organisationnelle qu'en intra-hospitalier. En intra-hospitalier, on les a suffisamment vus et encore à l'instant. Vous avez une unité de lieu qui est la chambre. Donc quand vous allez construire un projet intra-hospitalier actuellement, ben, vous allez vous intéresser à l'idée de faire des chambres individuelles, on l'a suffisamment dit. Donc ça donne un point d'ancrage de la réflexion. Les chambres de soins intensifs sont aussi également un point d'ancrage important. La sécurité ou la sécurisation, comme vous voulez, ou la dimension sécuritaire. Donc nous avons appris tout à l'heure qu'il fallait que les murs aient une résistance matérielle, qu'ils aient même une résistance chimique. Voilà, ça peut être un point d'ancrage de la réflexion. Mais alors en extra-hospitalier, on n'a pas tout ça. Hein. On n'a quasiment pas d'espace individuel. Ce sont quasiment que des espaces collectifs en extra-hospitalier. On n'a pas ces contraintes ou beaucoup moins de sécurité. La prévention du suicide en extra-hospitalier, moi je l'ai eu parce que notre centre de jour a 4 étages. Et nous avons pensé que l'hôpital de jour devait être un volume unique. Donc nous avons associé 2 étages avec une coursive. Donc on nous a dit, mais ils vont sauter par la coursive et ils vont se suicider. Donc ça peut quand même arriver, en tout cas que l'on nous pose la question. La contrainte en extra-hospitalier, c'est surtout qu'il faut que le dispositif soit ouvert sur la cité, mais suffisamment enveloppant pour le patient. Et ça, c'est vraiment difficile. On verra quelles sont les réalisations qui ont été proposées dans ce sens. Ce que l'on retrouve beaucoup dans les témoignages des collègues ou des architectes sur l'extra-hospitalier, les quelques témoignages, c'est une notion de circulation, les rencontres, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un espace où les gens puissent se rencontrer, mais également éviter les rencontres lorsqu'ils le souhaitent, les échanges. Ça, c'est vraiment ce qui revient, et cette notion d'enveloppe, une espèce de Gore-Tex institutionnel, hein, ça, une enveloppe qui protège, mais en même temps qui laisse passer les choses. Et puis, un aspect important, mais qui existe aussi en intra-hospitalier, c'est la différenciation des espaces. C'est important parce que de là vont aussi se définir la dimension organisationnelle. Je suis revenu en arrière. Alors, sur la différenciation des espaces, là, je vous présente notre dispositif. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais nous nous sommes positionnés sur le plan organisationnel et sur le plan des missions de notre centre de jour sur la possibilité de l'accueil non programmé tous les jours de la semaine de 9h à 18h. Tous les CMP ne fonctionnent pas comme ça, mais en tout cas, c'était un objectif qu'on s'est donné. Ça nous a imposé, sur le plan de notre organisation et de la réflexion sur nos espaces, de mettre l'espace d'accueil le plus près possible de la rue. Hein, je veux dire, une psychiatrie qui a pignon sur rue. Et voilà notre espace d'accueil, donc avec une infirmière d'accueil de première ligne, etc. Mais cet espace devait être pensé comme tel. Et il se différencie de l'espace de consultation. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est au rez-de-chaussée. Nous nous situons, pour vous donner une petite idée, au terminus d'un tram, à 100 mètres de la mairie de quartier, en face du Leclerc Express, au milieu de la cité, et puis à côté d'une salle de spectacle qui s'appelle la salle Django Reinhardt. Voilà. Donc là, nous sommes en rez-de-chaussée et nous donnons directement sur la rue. Là, nous montons d'un étage, c'est l'espace de consultation. Notre dispositif avait cette particularité, c'est que nous ne trouvions pas de lieu pour nous installer sur Strasbourg. Donc nous avons dû faire intervenir la mairie à plusieurs reprises. Et ce quartier, qui était vraiment très défavorisé, a bénéficié de ce qu'on appelait un grand projet de ville, un GPV. Et dans ce grand projet de ville, il y avait un certain nombre de modules architecturaux, mais qui étaient imposés sur le plan du style extérieur et des surfaces par la ville, qui restaient vacants. Et donc, ils nous ont proposé un de ces modules, donc un immeuble entier. Mais nous avons depuis la contrainte de travailler sur 4 étages, avec donc 4 plateaux de 120 mètres carrés, chacun. Donc ça, c'est l'espace de consultation. Ensuite, là, vous voyez, si vous y arrivez, l'espace centre de jour. Et c'est là qu'on est tombé sur les questions de sécurité, parce qu'il y a cette coursive. Donc la contrainte pour nous, c'était qu'on avait 2 étages. On n'allait pas faire un hôpital de jour sur 2 étages. Il fallait penser une continuité du volume et même une continuité fonctionnelle. Donc on a demandé à l'architecte d'ouvrir ces 2 étages et de faire donc une espèce de duplex, hein, qui accueille donc un peu plus de 30 patients par jour. Voilà, là vous avez un autre point de vue de ce duplex, mais vous voyez qu'en arrière-plan, vous avez l'escalier de l'immeuble qui donc distribue ces 2 étages. Et il faut sortir par l'escalier pour aller sur l'autre étage, puisque nous n'avons pas pu faire un escalier central. Voilà. J'en arrive aux enjeux et je terminerai là-dessus. Le choix du site d'implantation, c'était quelque chose de très important. C'est un positionnement de la psychiatrie publique dans la cité, hein, le choix d'une implantation d'un dispositif extra-hospitalier. Nos équipes ont voulu, nous avons un secteur qui est pour 2/3 composé de la cité du Neuhof et pour 1/3, voire 1/4, du quartier du Neudorf, qui est un quartier de Strasbourg, plutôt très chic, voire relativement chic, en tout cas parmi les terrains les plus chers de Strasbourg, hein, au prix du mètre carré. Et alors que le Neuhof, c'est parmi les terrains les moins chers. Donc nous avons ce contraste. Nous avons fait le choix de nous installer plutôt dans la partie la plus défavorisée, avec l'accord des équipes. Une partie des équipes disait « mais on va se faire agresser dans le tram », etc. Enfin, il y avait une... Autant la psychiatrie peut stigmatiser, mais des fois le tissu social l'est également. On a eu des équipes qui disent « mais on va avoir du mal hein. ». En fait, les équipes sont restées les mêmes, n'ont pas changé, j'allais dire d'orientation, n'ont pas changé de secteur. Nous avons souhaité que notre dispositif soit visible. Ça, c'est une grande question que je vais vous soumettre tout à l'heure. Nous avons réfléchi aussi sur l'accessibilité. Donc, on voulait avoir pignon sur rue, être proche des transports en commun, donc ce qui est le cas. Et nous avons bien perçu qu'il y avait un impact possible sur l'offre de soins territoriale, parce que nous sommes juste à la frontière du secteur du CHU, à Strasbourg, qui, lui, a très peu de dispositifs extra-hospitaliers, en fait, qui fait l'extra-hospitalier dans la clinique psychiatrique, hein, dans l'hôpital civil de Strasbourg, et ne fait que 2 demi-journées de consultation dans les autres quartiers, hein, comme en disant que c'est un CMP. Donc il a été proposé à la dernière conférence de territoire que le CHU vienne s'installer dans nos locaux. Et la participation, voire l'implication des élus et des partenaires, ça c'est extrêmement important. Nous avons créé donc un conseil de santé mentale de quartier, et nous avons demandé aux élus de définir nos missions et de définir l'implantation du site. Les élus n'arrêtent pas de dire qu'ils comprennent rien à la psychiatrie, que c'est pas lisible, etc. Ben, nous leur avons proposé d'être intégrés dès le départ de la réflexion. Et ils l'ont fait. Les nouvelles organisations adaptées aux missions, il s'agissait d'abord, même auprès des équipes, de rappeler les missions, notamment de refixer la question de l'accueil de première ligne. Les horaires d'ouverture, je ne vais pas rentrer en conflit avec les syndicats, mais nous sommes en train de réfléchir à une ouverture également une partie du week-end. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais surtout, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'était l'occasion de rééquilibrer les exigences intra-extra. Pas forcément en termes de moyens, mais en termes de communication dans l'hôpital, hein, à l'intérieur de l'hôpital, en termes de visibilité, en termes également d'encadrement. Nous avions jusqu'alors, sur les 3 structures qui composaient notre secteur en extra-hospitalier, une dispersion des cadres, hein, 2 ou 3 demi-journées de ce cadre par-ci, 2 ou 3... Là, on n'a qu'un seul cadre sur l'ensemble de la structure, et il permet du coup de mieux définir les exigences soignantes sur l'ensemble de la structure, et ça a fait beaucoup. Définir et réaffirmer les liens avec les partenaires... Je n'insiste pas, vous connaissez le IAIUS. Je voudrais finir là-dessus, parce que c'est ce qui m'a semblé, moi, très important. Et c'est finalement la plus grande difficulté que j'ai rencontrée. C'était comment appeler l'engin. Alors, un certain nombre certaines personnes dans les équipes, pour ne pas dire la majorité, voulaient dire, mais on ne change pas le nom. Alors, nous, on s'appelait Centre Pinel, avant. Alors, j'aurais dit, mais... OK, mais est-ce que ça parle, Centre Pinel? Enfin, est-ce que... Voilà, enfin, bon. C'est quand même un peu élitiste en matière de visibilité. On ne peut pas s'appeler psychiatrie. Ah bon, pourquoi ? Bon. On ne peut pas s'appeler psychiatrie, les équipes ne voulaient pas. On a discuté avec notamment le cadre supérieur, il y a eu des groupes de travail pour ça, etc., à peu près 6 mois. Oui, à peu près. Et ce n'est que lorsque le fournisseur de lettres sérigraphiées sur la façade a demandé « Ben alors, je mets quoi ?» que là, on a été, c'est le cas de le dire, au pied du mur, et qu'on a pu donner le premier nom auquel on avait pensé. C'est « Centre de jour en santé mentale Strasbourg-Sud ». Et là, on a dit « Ouf !» mais l'histoire ne s'est pas finie là. Dès que cette appellation a été annoncée... alors déjà, les professionnels ont dit « c'est pas possible, ça va stigmatiser. Les gens du quartier vont savoir ce qui se passe dans ce bâtiment. » Mais c'est ça que j'ai entendu. Je ne l'ai pas entendu des patients, je ne l'ai pas entendu de l'entourage des patients. Je l'ai entendu de 2 catégories, les soignants, et l'autre catégorie, c'était les autorités locales. M'ont passé un coup de fil, ils disent c'est quoi, vous allez appeler ça centre, vous pensez pas que ça va être une provocation à l'égard de la cité? C'est ce qu'on m'a demandé, hein. Là il faut être bien assis et il faut essayer de garder le cap, hein. Donc on a gardé le cap, et on est même allé un peu plus loin, puisque vous allez voir comment on l'a écrit. C'est ma dernière diapo. Hein, mais je le dis, je le redis, et maintenant c'est passé. Nommer l'objet de la structure est une démarche déstigmatisante de cet objet. Et je reprends les propos du plus récent, on va dire ça comme ça, plan santé mentale et psychiatrie. Il y a une responsabilité collective à prendre des mesures pour lutter efficacement contre l'incompréhension et le jugement trop souvent portés sur les personnes et leur entourage. Les institutions devront encourager ces évolutions et des représentations. Hein, c'est marqué noir sur blanc. Le plus grand obstacle, c'était celui des professionnels. Pourtant, ça faisait 15 ans qu'ils travaillaient, ils travaillent bien. ils font du domicile, ils parlent très bien de la psychiatrie, mais quand il s'est agi de nommer la structure, ça a été vraiment, vraiment très difficile. Et deux derniers exemples. Voilà une photo que j'ai ramenée d'une mission. Alors, je peux vous la montrer, hein, c'est pas secret, puisqu'on en a parlé avec les collègues de cet établissement, de la région parisienne. Un tout nouveau centre de jour construit à grands frais, très joli, bien décoré, avec des couleurs apaisantes, etc. Et voilà comment il est présenté. Hein. Consultation médico-psychologique, un terme, je crois, être ancien, hein, qui a été remplacé donc par les centres médico-psychologiques. Et voilà la présentation des horaires d'ouverture en fonction du médecin présent. C'est dommage parce qu'en plus, ils ont un accueil de première ligne. Hein. Mais vous voyez comment la lisibilité est quelque chose, à mon avis, d'important. Hein. Et je ne sais pas ce qui est caché par les bandes. Voilà. Hein. Donc ça, c'était un exemple. On a travaillé là-dessus avec les équipes de ce centre hospitalier. Voilà. Et puis voilà notre centre de jour, voilà la provocation. Centre de jour en santé mentale. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré l'extérieur, je vous ai d'abord montré l'intérieur. Donc il faut vous imaginer au cœur de la cité du Neuhof, au terminus du tram en face du Leclerc Express, avec les naissins de scooters qui passent et repassent et passent et repassent. On nous avait promis d'être agressés, on nous avait promis d'être détériorés dès le premier jour. Il n'y a eu aucune dégradation, on est ouvert en permanence. Il y a des gamins qui passent pour demander ce qu'on fait là-dedans et qui peuvent d'ailleurs y rencontrer quelquefois leurs parents. Mais, et on a des patients, alors on est en train d'étudier la question parce qu'on n'a pas encore assez de recul, mais qui habitaient déjà le quartier, nous étions déjà dans le quartier un peu plus loin, mais très en retrait, qui ne savaient pas qu'il y avait un dispositif de santé mentale dans le quartier et qui l'ont découvert à cette occasion. Voilà, c'est un témoignage. Je vous remercie de votre attention.